Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour.
Thomas More, l'utopie et nous.
À l'imitation d'Eraste, Thomas More écrivit en latin un ouvrage fantaisiste et satirique, sa fameuse utopie, relation d'un voyage dans une île imaginaire. Les habitants condamnent la guerre et se servent de l'or pour forger les chaînes des esclaves.
Des œuvres complètes de Thomas More, 15 volumes. Ce n'est pas nécessairement ce livre, l'utopie, qu'on retient en premier, même si paru en 1516, il obtint très vite le succès. Sa vie, il est vrai, a beaucoup capté l'attention. On s'attendrait à ce qu'un cinéaste en fasse un biopic. Intellectuel sans vanité, doué pour la plaisanterie comme pour la conversation, sa maison hospitalière à Londres était réputée pour entrecroiser les amitiés. Il disait n'avoir attendu et recherché d'autres salaires que la culture de son esprit et la connaissance de la vérité. La philosophie m'a appris à dépendre de ma conscience plutôt que du jugement du dehors. Mais peu après la publication de l'Utopie, il accepta de devenir conseiller du roi. En 1530, le voilà chancelier d'Henri VIII. Mais le roi, désireux de renouveler ses aventures matrimoniales, décide de trancher le lien qui l'embarrasse avec l'Église catholique d'Angleterre et c'est Thomas More qui finit la tête tranchée en 1535. Sa canonisation par l'Église au nom des services rendus au catholicisme a moins figé sa mémoire que le culte que lui ont rendu aussi les communistes de Moscou ou de Pékin qui ont voulu voir en lui un précurseur de leur collectivisme. C'est là une des principales raisons de la méfiance qui entoure souvent le mot d'utopie. Mais Thomas More l'entendait au contraire comme un bouquet possible. Notre époque fatiguée ferait peut-être bien de redonner un peu de lustre au projet humaniste qu'il habitait.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
En compagnie de Thierry Paco, bonjour.
Bonjour.
Vous avez déjà, aux excellentes éditions de La Découverte, publié Utopie et Utopiste. Et maintenant, un livre d'une tonalité haute, ce qui explique notre titre, Thomas More et nous. Lettre à Thomas More sur son utopie et sur les utopies qui nous manquent. Parce que vous contestez l'idée que l'utopie, le lieu imaginaire où on est gouverné de telle sorte qu'on est heureux, soit synonyme de fixité ou d'uniforme.
Absolument, c'est-à-dire que là c'est un sens qu'on ne trouve absolument pas chez Thomas More ni chez ses suiveurs, cette idée d'une société encasernée, disciplinée, voire même disciplinaire, où tout serait organisé depuis en haut. Non, là on a une île où il y a 54 villes, il faut préciser que l'Angleterre de l'époque avait 53 comté plus Londres, ce qui revient à peu près au même, et chacune de ces villes est autonome, et nous sommes dans un pouvoir totalement décentralisé.
L'Angleterre était une île, déjà, et au XVIe siècle, Thierry Paco, elle était caractérisée par la montée de la ville. Thomas More, c'est un homme de la middle class qui progresse, et la montée des villes se nourrissait de l'arrivée des paysans pauvres.
Alors, d'un côté, il y a l'arrivée des paysans pauvres qui sont chassés de leurs terres par un phénomène qu'on a appelé l'enclosure.
Qu'est-ce que c'est l'enclosure?
C'est simplement le fait que les seigneurs ont décidé à un moment donné qu'il fallait enclore, c'est-à-dire mettre des clôtures. Et évidemment, à l'époque, il n'y avait pas encore le fil de fer barbelé des cow-boys. Donc, c'était des véritables palissades, ça coûtait de l'argent. Et bien souvent, des petits paysans étaient contraints de vendre une partie de leurs terres pour clore le reste. Et d'autres, évidemment, étaient contraints de partir. Et en même temps, c'était un moyen d'accaparer ce qu'on appelait les communaux.
C'est-à-dire l'exercice par une communauté villageoise de l'agriculture.
Et de terres qui étaient pour tout le monde.
Il y a une formule là que Thomas More, qui invente souvent des mots, utopie, oligopole, etc., vous nous en parlerez peut-être, et les marxistes lui en sont très reconnaissants.
Une formule magnifique, il dit que dorénavant, ce sont les moutons qui dévorent les hommes.
Alors, je disais que lui, il était de la middle class. Son grand-père était boulanger, son père était magistrat. Il a progressé, il a été avocat, notamment de la corporation des Merciers de Londres. Il a fini par s'acheter une assez belle maison. Il vivait dans un cottage admirable, non pas seulement par le décor, mais parce que s'y déployait la civilité humaniste.
Il se marie une première fois avec Jane Holt, qu'on nous peint, femme charmante, instruite, musicienne. Il en eut un fils et trois filles. Veuf, il épouse Mrs. Alice Middleton, veuve elle-même, de caractère moins avenant, nous dit-on, mais femme d'intérieur remarquable. Or, Thomas More possédait une maison à Chelsea, non pas à leur quartier de Londres, mais campagne proche de la ville. Cette maison était fameuse, non seulement en Angleterre, mais en Europe, comme un foyer ardent de savoir. Erasme lui-même nous a peint la vie studieuse qu'on menait chez Thomas More. Dans cette maison, écrit-il, on ne voit point de paresseux. Nulle fille n'est occupée à des tâches frivoles. Petite livre est sans cesse entre leurs mains. Des livres, un beau jardin au bord de la Tamise, de la musique aussi, car ces jeunes femmes érudites savent jouer de divers instruments. C'est une vie familiale épanouie qui s'évoque dans les descriptions d'Erasme et sur le dessin d'un autre illustre étranger reçu dans la maison, le Suisse Holben, portraitiste d'Erasme et de Thomas More.
Je me serais identifié l'inimitable speakerine de l'heure de culture française qui fut la gloire de la radio nationale dans les années 1950. Elle cite le nom d'Erasme. Et alors, Erasme, c'est un ami très proche. C'est pas dans cette maison de Chelsea qu'il a rencontré vraiment Thomas More, mais dans un établissement précédent. Il était pris d'un limbago et il a passé pas mal de temps chez Thomas More et écrit l'éloge de la folie.
Oui, alors même avant, ils se rencontrent en 1499 et là, c'est un coup de foudre pour Erasme, qui a une dizaine d'années de plus que Thomas More. Et il est vraiment séduit, on peut pas le dire autrement, par ce personnage qui pourtant a une taille d'1m70, qui a une épaule plus haute que l'autre, mais qui sourit tout le temps et qui, en même temps, est toujours dans l'esprit. C'est-à-dire que tous les deux vont se rencontrer sur leur maîtrise du grec et leur plaisir de traduire le latin. Alors, ils vont avoir une coopération comme ça. Et effectivement, en 1505, Erasme va séjourner un peu malgré lui à cause de l'imbago chez Thomas More. Il écrit l'Éloge de la folie. Alors, c'est un jeu de mots en grec entre Moira, évidemment, la folie, et puis Thomas More, le mont More. Et dans ce texte-là, il invente une île extraordinaire avec une population, les Abraxas, et il dit à Thomas, c'est à toi d'écrire la suite.
Erasme dit de Thomas More, il était peu enclin à la vie de cour, ni à l'intimité avec les princes, parce qu'il avait une haine particulière pour la tyrannie et un goût extrême pour l'égalité. La compassion pour les humbles réunissait les deux hommes. Mais voilà que, peu après avoir écrit l'Utopie, le roi Henri VIII, qui est le roi régnant et à l'époque extrêmement séduisant, enjôleur, par un geste prémonitoire, va passer le bras autour du col de Thomas More.
Voilà, et devant témoins, c'est-à-dire que tout un... Et les témoins interprètent ça comme un signe vraiment de grande sympathie du roi, d'admiration du roi, qui s'invitait à dîner dans la maison de celle-ci, hein, qui est une maison effectivement très accueillante, où il y a une ménagerie, où il y a une bibliothèque fabuleuse pour l'époque, où il y a un parc arboré. Et du reste, Hans Holbein, dont la speakerine de tout à l'heure a évoqué le nom, c'est Erasme qui fait venir Holbein, qui est aussi néerlandais, en Angleterre. Et on a une esquisse d'un tableau de la famille de Thomas More. Il y a 10 personnages, 6 d'entre eux ont un livre entre les mains. Donc ça indique bien quand même cette dimension.
Maison accueillante, alors ça va être la maison du chancelier, parce qu'à un moment, en 1530, il devient chancelier. Il ne cherche pas à mettre en pratique les idées de l'utopie, sur lesquelles on reviendra pendant son gouvernement des hommes. Parfois, il est un peu sévère. Dans la bibliographie, elle a seulement en ligne de votre livre, vous citez Bernard Cotteret, grand spécialiste aussi de Thomas More, qui raconte que dans la maison accueillante de Chelsea, où résonne la musique et l'harmonie, Thomas More a attaché à un poteau un méchant hérétique qu'il poursuivait, l'a fouetté avant de le rendre à la Tour de Londres pour qu'il soit torturé plus savamment, parce qu'il n'était pas même complètement expert en torture.
Non, heureusement, mais oui, c'est un personnage qui, évidemment, on a fait une hagiographie après, surtout quand il va devenir un saint, mais c'est un personnage qui est, à mon avis, calculateur, qui sait très bien sur qui s'appuyer, qui est assez tacticien, et là, il va trouver plus fort que lui, c'est Henri VIII. Et il est tout à fait admiratif d'Henri VIII, parce qu'Henri VIII va écrire un traité de la prière, qui a disparu, mais que Erasme et Thomas More appréciaient. Ensuite, il a réfuté les 95 thèses de Luther, en latin, ce qui lui a valu le titre de défenseur de la foi par le pape, avec qui il va s'affronter sur la question, comme vous le disiez dans votre introduction, maritale.
Oui, parce qu'il cherchait Henri VIII à former, on va dire ça pudiquement, de nouveaux liens matrimoniaux. Et Thomas More, qui avait pourtant choisi de se retirer de son poste de chancelier, va bientôt être, parce qu'il s'oppose à ces nouveaux liens matrimoniaux, inquiété, convoquer, interroger. C'est ici un extrait d'une pièce de Robert Hoxton Bolt et, dans le rôle de Thomas More, c'est Jean Vilar soi-même. Première chaîne de télévision, 1963.
Sir Thomas, y a-t-il quelque chose que vous souhaitiez me dire au sujet du mariage de notre roi avec la reine Anne ?
Il était entendu qu'on ne parlerait plus de cette affaire.
Vous l'avez cru à tort. Ces accusations
sont des menaces pour enfants, monsieur le secrétaire, pas pour moi.
Sachez alors que le roi m'ordonne de vous accuser en son nom de profonde ingratitude. Sachez aussi qu'il m'ordonne de vous dire qu'il n'a jamais toléré, il ne tolérera de serviteurs aussi bas ou de sujets aussi traîtres que vous l'êtes.
Nous y voilà arrivés, enfin.
Vous pouvez rentrer chez vous maintenant. Pour le moment.
Pour le moment, parce qu'il va se retrouver, lui aussi, à la tour, et il sera exécuté. Les écrits de prison, ça fait partie des livres importants de Thomas More, souvent d'ailleurs sous la forme de dialogue.
Oui, ils sont absolument passionnants. Alors, il faut imaginer qu'il est dans la tour de Londres, donc il écrit de mémoire, hein. Il n'a pas les textes de sa bibliothèque fabuleuse avec lui, et il va se... Comme il sait qu'il est perdu, il va se lâcher, je dirais un peu vulgairement, et donc ce sont des textes excessivement subjectifs et très très puissants, avec une capacité à ne pas rester académique ou docte.
Quand en 1535 il est exécuté, Henri VIII apprend la nouvelle tandis qu'il joue aux échecs, et son geste, qui consiste à poser un pion sur une nouvelle case, est comme suspendu. Où est Thomas More? Sa dépouille charnelle n'est plus là, mais la terre n'est pas un échiquier. L'utopie, c'est le lieu qui n'est pas ici. Alors l'utopie, si on revient au premier livre.
D'abord, il faut se rappeler que dans la correspondance avec Erasme, le nom de code, le titre de code était « Nusquama », c'est-à-dire « nulle part » en latin. Et le mot « utopie » arrive très très tardivement. Le texte commence à être rédigé en 1515. Et puis Thomas More décrit ce qu'un voyageur, Raphaël Itlodet, Itlodet ça veut dire « diseur de sornettes » en grec. Et Raphaël était le prénom à la mode au Portugal à l'époque. Et le bateau de Vasco de Gama s'appelait le Saint-Raphaël. Donc on voit bien qu'il y a tout un espèce de code. Et lui-même avait lu Amerigo Vespucci. Et c'est à partir de ce récit de voyage qu'il attribue finalement la découverte de l'Amérique par un second de Vasco d'Amerigo Vespucci, qui est justement Raphaël. Et donc cette île qui est nulle part... le texte va être publié avec un sizun écrit par Thomas More, mais doté d'un pseudonyme, dans lequel il joue sur les mots en disant « Est-ce que c'est le bon lieu, l'utopia ou l'utopia, c'est-à-dire le non-lieu » Notons que « utopia » n'est ni du grec ni du latin, c'est un peu les deux, c'est un peu une fabrication comme ça, et évidemment il n'imagine pas que ce mot va devenir un mot usuel dans les siècles qui vont suivre.
Alors d'un côté vous dites, les droits imprescriptibles de l'individu sont affirmés bien mieux que dans une autre source, qui sont les dialogues de Platon, la République, et en même temps, il y a communauté des biens, propriété collective.
Alors effectivement, dans la première partie de l'utopie, qui est une dénonciation de la société inique de son temps, et il attaque très violemment les guerriers, les nobles, les chevaliers, qui sont pour lui une population nuisible et parasitaire, et la solution, c'est la suppression de la propriété privée, la suppression de la monnaie.
L'État est au service des individus, néanmoins il lui offre des facilités pour vivre la plus...
Alors c'est pas vraiment l'État.
La vie la plus heureuse possible, c'est pas vraiment l'État.
Hein, c'est pas l'État au sens français d'aujourd'hui, quand on dit il y a trop d'État ou pas assez. Non, là c'est plutôt les autorités décentralisées de ces villes dans lesquelles résident les paysans. Car la majorité de la population de l'île d'Utopia sont des gens qui vont travailler la terre.
Il y a une obligation de prendre ses repas en commun?
C'est pas tout à fait ça. C'est que on ne cuisine pas chez soi dans sa maison, qui est pourtant assez luxueuse, elle est équipée de vitres, elle est équipée de cheminées, mais on va manger au restaurant collectif d'à côté.
Et puis les soirées sont harmonieuses, pacifiées, comme dans le cottage maintenant abandonné par Thomas More de Chelsea.
Le soir, après souper, les Utopiens passent une heure en divertissement. L'été dans les jardins, l'hiver dans les salles communes où ils prennent leur repas. Ils font de la musique ou se distraient par la conversation. Ils ne connaissent ni dés, ni cartes, ni aucun de ces jeux de hasard, également sots et dangereux. Ils pratiquent cependant deux espèces de jeux qui ont beaucoup de rapport avec nos échecs. Le premier est la bataille arithmétique dans laquelle le nombre pille le nombre. L'autre est le combat des vices et des vertus. Ce dernier montre avec évidence l'anarchie des vices entre eux, la haine qui les divise et néanmoins leur parfait accord quand il s'agit d'attaquer des vertus.
De l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Et maintenant, l'utopie après Thomas More, et particulièrement au XIXe siècle, le siècle de tous les utopiens, ainsi Bouvard et Pécuchet.
Crois-tu que tous les malheurs viennent de la contrainte ?
Pourquoi ?
Et c'est ce que dit Fourier.
D'un autre côté, Rousseau conseille l'esclavage. Il dit que les sciences ont perdu le genre humain, que le théâtre est corrupteur. Et que l'État doit imposer une religion sous peine de mort.
Non, alors, sous peine de mort.
C'est écrit là.
Ouais, enfin, moi, je ne suis pas toujours d'accord avec Rousseau.
Oui, moi aussi. Et même, hein, on trouve beaucoup de choses ridicules chez les utopistes, chez Pierre Leroux et Fourier. Hein. Mais ils méritent notre amour, François. Car ils ont lutté contre la hideur du monde, la tête au ciel comme des héros.
Et tu crois que le monde peut changer à cause de la théorie d'un monsieur ?
Oui, oui, il ne faut pas se laisser croupir dans l'égoïsme. Il faut chercher le meilleur système.
Nous sommes en compagnie de Thierry Pacaud qui publie à la découverte Lettre à Thomas More sur les utopies qui l'ont suivi et qui nous manquent. Alors vous, vous n'êtes pas comme Flaubert, vous ne partagez pas la même ironie devant les utopistes, vous seriez volontairement utopien, d'ailleurs comme Bouvard et Pécuchet l'ont été depuis leur jardin et nantis de leur rente, et vous insistez sur la fécondité des utopies. On peut prendre un ou deux dossiers, si vous voulez bien.
Alors, oui, bien sûr, un libraire de Vienne, juste avant la guerre de 14, avait recensé à peu près plus d'un millier d'utopies. Et il faut ajouter, dans le siècle magnifique qui est le 19e, l'arrivée des utopies pratiquées, c'est-à-dire expérimentées. C'est aussi le moment où on découvre l'Amérique, où l'Amérique se découvre elle-même en allant conquérir l'Ouest. Et là, il y a énormément de Français, de petites communautés phalanstériennes ou de colonies libertaires qui vont s'installer.
En Amérique,
essayer de vivre selon les principes tels qu'ils l'ont imaginé de l'utopie. Alors,
on a retrouvé les traces récemment sous un parking de supermarché dans une grande ville américaine. C'était une communauté utopique française. Bon,
Victor Considérant, qui est un disciple de Fourier, qui est un polytechnicien, avait, avec un groupe de Français, acheté Dallas, mais qui n'avait pas encore de pétrole à l'époque.
Alors dites-moi, on va prendre quelques noms, pas seulement des Français. Je voudrais qu'on prenne comme premier dossier, parce que vous êtes un spécialiste d'urbanisme, je ne sais pas si vous aimez encore le mot, la ville. Et là, il y a un individu qui s'appelle William Morris, qui est peut-être à considérer.
Alors absolument, parce que William Morris va décrire un Londres qui va se dépeupler, qui va être envahi par une nature luxuriante. La Tamise va devenir une vraie rivière, presque un lac. On peut s'y baigner, on peut y naviguer. Et puis l'habitat est éparpillé dans ce qu'on pourrait appeler une ville-territoire, une ville-paysage. Donc c'est une autre image que la ville concentrée, puissante, qu'on va trouver chez Cabet, par exemple, dans l'Icarie, ou qu'on va trouver chez Édouard Bellamy dans 100 ans après.
Et tout ça trouve racine, d'une certaine manière, chez Thomas More, qui décrivait ainsi une des villes de l'île d'Utopie.
Qui connaît une ville d'Utopie les connaît toutes, car toutes sont exactement semblables, autant que la nature du lieu le permet. Je pourrais donc vous décrire indifféremment la première venue, mais je choisirai de préférence la ville d'Amoroth, parce qu'elle est le siège du gouvernement et du Sénat, ce qui lui donne la prééminence sur toutes les autres. Amoroth se déroule en pente douce sur le versant d'une colline. Sa forme est presque un carré. Sa largeur commence un peu au-dessous du sommet de la colline, se prolonge 2000 pas environ sur les bords du fleuve Anhydre et augmente à mesure que l'on côtoie ce fleuve.
Toujours le même climat, la même harmonie. Vous êtes très sensible, vous, Thierry Pacaud, à la présence du village dans la ville, de la campagne dans l'agglomération, de l'agriculture dans la ville.
Absolument. Je pense que l'être humain n'est pas coupé du monde vivant et donc par conséquent de la flore et de la faune qu'on a trop fréquemment mis à l'écart et même aujourd'hui avec le productivisme de l'agriculture totalement altéré.
C'est-à-dire que c'est chez les utopistes qu'on trouverait la racine des champs qu'on plante sur les terrasses maintenant.
Absolument. Enfin, si vous lisez Sébastien Mercier, par exemple Paris en 2440, tous les toits sont cultivés. Et si on regarde le roman fourriériste rédigé par Zola, Travail, son dernier livre publié en 1901, c'est également une ville où l'habitat n'est pas du tout un phalanstère trop collectiviste, selon Zola, mais un éparpillement. Je citerai un autre auteur qui est passionnant, qui est Piotr Kropotkin. Dans Champs, usines, ateliers, on a aussi affaire à une ville dispersée.
Alors, on a cité souvent Charles Fourier et son phalanstère. Alors, le phalanstère organisé, un petit peu sur... d'une certaine manière, le modèle du Palais Royal avec des rues-galeries.
Tout à fait.
Et avec des élévations. Ce n'est dans la ville que l'élément capital. Mais autour, il y a autant de jardins que de constructions.
Absolument.
Dans l'esprit de Fourier.
Chez Fourier, on est dans, là encore, non pas dans une grande ville, comme on peut l'imaginer aujourd'hui, mais dans ce qui est un ensemble agro-artisanaux, collectif, enfin quelque chose comme ça.
Et on peut construire, le phalanstère est très organisé, mais on peut construire autour du phalanstère selon une architecture fantaisiste, variée, joyeuse.
Absolument, bien sûr, et c'est même la qualité de Fourier, puisque alors il était un peu maniaque quand même, donc il avait repéré 810 caractères chez les hommes et 810 caractères chez les femmes. Il trouvait que la société hypocrite dans laquelle il vivait écrasait et empêchait ces différents caractères de se déployer, et donc il considérait que le phalanstère idéal serait peuplé de 1620 individus, d'une certaine façon, permettant la plus grande maximisation des passions.
Alors justement, il est maniaque. C'est un homme du premier 19e siècle, on ne l'a pas peut-être situé assez précisément. De même qu'il inventorie les caractères, il s'attache beaucoup, puisque tout fonctionne par l'attraction des passions que nous partageons les uns avec les autres, à faire l'inventaire des passions. Et je vous propose qu'après avoir parlé très brièvement de la ville, on parle tout aussi brièvement, trop brièvement, de l'enfance. Alors, les passions de l'enfance. Il y a le fracas industriel, faire du bruit, la singerie, imiter, la miniature industrielle, faire des petites choses réduites qui disent le réel. Et puis, il y a aussi le furetage, qui consiste à tout retourner hein, quand on a 2 ans. Alors, ici, nous sommes avec des bambins, dans le bambinat du phalanstère.
Deux bambines sont assises au côté supérieur. Elles égrènent des pois. L'inclinaison de la table fait rouler le grain vers le côté inférieur, où se trouvent assis 3 lutins ou lutines de 25, 30, 35 mois, chargés du triage et pourvus d'instruments spéciaux. La lutine de 35 mois choisit d'abord les petits qui sont les plus difficiles à trier. Elle renvoie tout le gros et moyen à la cavité suivante, où la lutine de 30 mois pousse à la troisième cavité ce qui paraît gros, renvoie à la première ce qui est petit, et fait glisser le moyen grain dans le panier. Le lutin de 25 mois, placé à la troisième cavité, a peu de choses à faire. Il renvoie quelques moyens grains à la deuxième et recueille les gros dans sa corbeille. C'est à ce troisième rang qu'on placera le lutin débutant. Il s'entremettra fièrement à pousser les gros grains dans le panier. C'est un travail de rien, mais il croira avoir fait autant que ses compagnons. Il se passionnera, prendra de l'émulation, et dès la troisième séance, il saura remplacer le bas lutin de 25 mois, rejeter les grains de deuxième grosseur en deuxième case, et recueillir seulement ceux de première faciles à distinguer. Dès qu'il saura figurer à ce minime travail, on lui placera solennellement sur son bourrelet ou bonnet un pompon d'aspirant au groupe d'égoussage des pois verts.
Ah oui, alors l'égoussage des pois verts, certains vont peut-être rire, mais ça ouvre un vaste champ de possibilités. À qui veut maximiser les capacités de l'enfant dont on cherche qu'il les développe lui-même.
Oui, les deux disciplines, entre guillemets, qui sont prescrites dans les écoles phalanstériennes, c'est la gastronomie et l'opéra. Elle synthétise toutes les connaissances du monde. Alors, il faut ajouter que là, chez les bambins, etc., en fait, il y a un élément essentiel qui est de lutter contre la routine, la répétition. Alors, elle est indispensable pour acquérir certaines capacités. Et en même temps, après, on va jouer sur ce que Fourier appelle le papillonnant.
Alors, on pourrait multiplier les exemples de fécondité des utopies. Vous le faites dans votre livre à la découverte, Thierry Pacaud, en matière de travail, de sexualité, de religion. Je voulais plutôt vous poser une dernière question. Pourquoi les utopies n'ont-elles plus le vent dans le dos ?
Alors, pour au moins trois raisons. La première, c'est ce que j'appelle l'effacement de l'ailleurs, parce que j'avais repéré que toutes les utopies, depuis Thomas More, avec Amerigo Vespucci, puis toutes les suivantes, se nourrissent des récits de voyageurs. Et depuis la fin du 19e siècle, le monde entier est cartographié, recensé, dénommé, etc. Et donc, du coup, l'ailleurs n'est plus un ici présent, mais un autre part. Et c'est... du coup, la science-fiction qui entre en scène avec le Mars, avec la Lune, donc c'est un autre ailleurs. Bon. Et puis la deuxième raison qui est la plus importante pour moi, c'est que les tentatives d'expérimentation à grande échelle de l'utopie, c'est-à-dire le communisme, on connaît le lourd bilan du communisme soviétique, chinois, cubain, vietnamien, khmer, hein, et c'est évidemment ça qui devient une contre-publicité totale. On ne peut plus se présenter comme utopiste collectiviste, entre guillemets, quand tout d'un coup, votre interlocuteur vous dit « Oui, mais alors combien de morts sous Staline, combien de morts sur Mao ?» Et ça, je pense que ça a cassé pour longtemps le ressort inventif de l'utopie. Et puis le troisième élément, c'est que les utopies aujourd'hui sont des utopies microscopiques, des utopies passionnantes, comme ici une entreprise autogérée, là une école...
Un champ sur un toit.
Voilà, par exemple.
Ou un jardin partagé.
Ou un jardin partagé, une AMAP, etc. Mais du coup, ça fractionne. Il n'y a plus cette capacité de unitaire, c'est le mot clé hein, chez Fourier et aussi chez Thomas More, c'est l'unité. Qu'est-ce qui fait l'unité de notre vie quotidienne? Qu'est-ce qui fait l'unité de nos passions? Et il faut recoller tous ces morceaux et là on les fractionne parce que c'est beaucoup plus facile d'expérimenter une entreprise coopérative et puis ensuite on rentre dans une société qu'on connaît et qu'on n'arrive pas à transformer.
Bah oui, mais là, vous désespérez nos auditeurs qui pensent qu'en réalisant quelque chose avec quelques-uns, ils font avancer le monde. Et là, vous leur dites qu'ils ne composent que des poussières d'utopie sans espérance.
Oui, mais cette poussière d'utopie, à mon avis, contient en elle-même une voie lactée.
Merci à vous, Thierry Pacaud. Bah, vous nous avez mis la tête dans le ciel, comme disaient Bouvard et Pécuchet. Votre livre « Lettre à Thomas More » aux éditions de La Découverte. L'émission était préparée par Franck Olivard et Linka Negulesco, Frédéric Martin à la réalisation Valérie Estaraille et à la technique Henri Béreg.